Nous sommes dans le livre de Hébreux depuis pas mal de mois déjà, pas tous les dimanches, et nous sommes en train de traverser ce merveilleux livre dont, si vous n'avez pas encore constaté jusqu'à présent, que le but de ce livre, le but de l'apôtre, c'est que de souligner cette question de notre espérance. Et je vais juste souligner quelques versets que nous avons déjà vus, mais qui vaut le coup de revenir à plusieurs reprises. Lorsque, par exemple, en chapitre 3, il y a plusieurs mois, on était en chapitre 3, mais Christ, il est comme le Fils dans sa maison. Il est le Fils de la maison, et on va revenir à ce verset tout à l'heure. Sa maison, c'est nous, pourvu que nous le retenions jusqu'à la fin, la ferme confiance de l'espérance dont nous glorifions. Chapitre 6, verset 11, ce qu'on a vu la semaine dernière, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance. Chapitre 7, verset 19, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Peut-être le plus connu, c'était chapitre 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Rappelez-vous, l'apôtre est en train d'adresser certaines personnes dans l'Église qui commencent à perdre leur espérance. Et quand vous avez perdu votre espérance, vous avez tout perdu. Le monde, ça, c'est ça. Ils savent qu'il faut espérer autant qu'on peut faire continuer quelqu'un à espérer, il ne va pas terminer par entièrement se désespérer. Mais est-ce que le monde pourvoit en tant qu'objet de l'espérance ce que cette personne est pour vraiment ancrer son âme dans une certitude? Il est convaincu par des raisons qui méritent sa conviction, pour que quand ils arrivent des choses qui sont trop pour lui, des épreuves qui dépassent, il ne peut faire que espérer. Et pas comme le monde espère. On espère, mais on doute quand même. Parce que l'espérance biblique, c'est une espérance qui est absolument fixe. C'est quelque chose qui est futur, qui ne bougera jamais. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de voir, et qui sera là jusqu'à la fin. Et même dans notre texte aujourd'hui, nous avons terminé avec ce 18e verset la semaine dernière, qui disait que nous trouvions un puissant encouragement. Ça, c'est la volonté de Dieu, ça, c'était la volonté de l'apôtre quand il écrivait aux personnes qui commençaient à pas désespérés, mais quand même à reculer de leur espérance. Et donc, en proportion de leur recul, une déstabilisation de leurs affections et de leur foi. Donc, l'apôtre il revient très souvent. Tout ce qui sort de ma plume sera pour la restabilisation de votre foi pour que l'espérance qui en sorte soit sûre, soit fixe, soit persévérante, elle ne peut pas être bouleversée, n'importe ce qui vienne. Donc, pour que vous ayez un puissant encouragement, nous, dont le seul refus a été de saisir cette espérance que nous était proposée, ou on, il aurait pu dire promis, parce que c'est le mot promesse qui est souvent dans Hébreu. 19, cette espérance, nous la possédons, temps présent, existant maintenant, comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Et puis cette phrase selon l'ordre de Melchizedek. On va voir Melchizedek dans le chapitre prochain. On n'en parlera pas pour l'instant, mais rappelez, vous pouvez vous voir comment la direction de l'apôtre, quand il écrit à certaines personnes qui sont en train de remettre en question leur foi, ce n'est pas tout le monde, sans doute, mais certaines, et dans un sens, dans n'importe quelle église, nous avons ces deux espèces de personnes, même souvent côte à côte. Quelqu'un qui est fixe par rapport à leur espérance, et quelqu'un qui écoute et qui écoute et qui écoute. Et donc ce sixième chapitre, je ne crois pas qu'il y existe aucun chapitre dans la Bible où il y a un avertissement qui fait trembler au début du chapitre, et un encouragement qui fait sauter de joie à la fin du chapitre, ce que nous sommes en train de voir maintenant. C'est un puissant encouragement dans le même chapitre où il y avait cet très dur avertissement pour ceux qui reculent de leur foi. Alors, assez rapidement, nous devrions essayer de nous situer là où nous étions. Et pour ceux qui n'ont pas été là avant, pour ceux qui ont été là, cette deuxième section, après l'avertissement, commence en verset 9, avec une déclaration d'une persuasion ou un espoir qui est basé sur une observation de leur vie quotidienne, où il dit, j'ai l'impression que en observant vos activités, que des choses qui sont le fruit d'une foi donnée par Dieu, avec une espérance donnée par Dieu, ils sortent. Et ça m'encourage. Vous n'êtes pas juste coupé de tout désir de suivre le Seigneur. Vous êtes en train, à cause de la persécution, à cause des épreuves, de trembler dans votre foi, mais je crois que votre foi est authentique et réelle. Ça, c'est 9 et 10. Vous pouvez ouvrir le passage devant vous, et dans verset 11, j'ai l'impression que cette espérance faible est en train de devenir plus grande, et j'espère que ça soit le cas. Si vous avez une espérance, mais cette espérance n'est pas stable et c'est pas ferme, et puis, il va montrer deux choses, de mettre en évidence, éviter quelque chose et imiter quelque chose. Éviter de tourner en ronde, de flâner, en attitude de paresse, oh, ça viendra, mais de mettre de zèle par rapport à ce que j'observe dans vos œuvres les uns pour les autres. J'observe un amour les uns pour les autres qui n'est pas l'amour du monde, mais c'est à cause de l'amour pour le nom et la gloire de Dieu. On a vu, éviter la paresse, sauter dedans, imiter les personnes qui sont parties en avance, comme chapitre 11, et imiter ces personnes, qu'ils étaient des personnes très différentes les uns des autres, dans tempérament, dans arrière-plan, dans situation présente. Mais ils avaient une chose en commun, ils croyaient. Une croyance qui est tellement fixe que malgré les épreuves, et de toutes de ces personnes, nous savons des épreuves absolument impossibles, mais ils restaient calmes, ils restaient droits, ils allaient en avance parce que leur foi est fixe, pas dans un rêve, pas dans un objet, pas même dans un projet, mais dans une personne fiable. Que jamais qu'il ouvre sa bouche et promet, comptez-vous, il le fera. Mais quand je vois autour de moi, ce n'est pas possible. Mais oui, s'il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait promis ça, je l'aurais perdu espoir. Mais il y a quelqu'un qui a promis, dont sa parole est tellement puissante, que je ne peux pas ne pas croire, malgré toute évidence au contraire. Et ça, c'est la voie que nous sommes demandés de prendre. Abraham était notre illustration dans la semaine dernière, et nous voulons adresser ceci encore un tout petit peu aujourd'hui, où nous voyons ça en chapitre, on est en chapitre 6, et je veux juste lire quelle était la promesse que Abraham avait embrassée, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, verset 13, verset 14, il a dit, certainement, Abraham, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité. Et nous avons vu la semaine dernière, personne n'était plus candidat pour le contraire de cela qu'Abraham. Et les gens qui regardaient de l'extérieur, qui disaient son nom Abraham a été, et qui veut dire père exalté, a été changé en Abraham, qui veut dire père d'une multitude. On ne voit aucune multitude, on ne voit qu'un vieil homme de 100 ans et sa femme de 90 ans. Et puis un enfant par son serviteur, et puis c'est tout. Et puis rien de présent de ce qu'ils savaient, dans quoi ils espéraient sur le plan humain, n'était là. La promesse de Dieu était quand même, verset 14, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité, point !» Et Abraham exerçait et la foi et la persévérance. C'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Ayant persévéré, a obtenu. Et puis verset 16, c'était le principe de serment. On a parlé la semaine dernière. Et je devrais noter, parce que j'avais deux erreurs à corriger. Quelqu'un m'avait parlé de ceci. Tu as dit qu'Abraham avait 125 ans, et puis tu as aussi dit qu'il n'avait pas un enfant avant qu'il avait 100 ans, et que son fils Isaac aurait pu avoir 40 ans. J'arrive pas à faire le math. Et en fin de compte, il est mort à l'âge de 75 ans. Je me suis trompé. Il est mort à 75 ans. Et aussi, j'avais parlé du fait que il y a 4000 ans entre je risque de dire maintenant la même chose. Entre Abraham et Christ, il n'y avait que 2000 ans. Et on avait du mal à faire le maths aussi, là. Je m'excuse. J'aurais pas dû dire comme ça. Et je ne sais pas pourquoi je parlais comme ça, mais c'était sorti comme ça. Et maintenant, il est réglé. Et aussi, avant de finir ça, verset 16, c'était le principe de serment. Et nous avons vu les quatre fois dans 25 ans, parce que Abraham avait 75 ans, alors je fais très attention de faire bien le maths cette fois, il avait 75 ans quand il avait quitté Ur de Chaldèse, et puis il avait été promis un fils, il attendait 25 ans sans aucun signe que ça risquerait de devenir une réalité. Mais il a cru, et malgré une certaine déstabilisation de sa foi en ce qui concerne comment ça va se faire, il n'a pas allé contre Dieu pour dire « Tant pis, il n'a pas raison, non, peut-être il veut que je fasse d'une autre manière. » Et malheureusement, c'était une erreur très, très, très fatale. Mais Dieu garde sa promesse. C'est ça, entre autres, qu'Abraham a pris de cela. Malgré mes bêtises, Dieu garde sa promesse à cause de lui, pas à cause de moi. Deuxième fois, troisième fois, il a parlé, Abraham a cru. Quatrième fois, il avait donné un serment. Et nous lisons par ce passage que Abraham avait cru, mais que Dieu, par deux choses immuables, ça c'est une chose que nous devrions voir en verset 18, verset 17 qui dit, c'est pourquoi Dieu voulait montrer sa volonté, c'était de montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, qui c'est nous, l'immutabilité, inchangeabilité de sa résolution. Dieu intervint par un serment, une condescendance incroyable où Dieu se met comme un être humain qui font des serments parce que l'homme est menteur, ou parce que l'homme est pas fiable, ou parce que l'homme peut promettre avec une bonne intention, mais ça arrive ceci ou cela, il abandonne sa promesse. Dieu n'abandonnerait jamais sa promesse. Mais pourtant, pour que nous, des milliers d'années plus tard, vont regarder, et dans notre situation en 2016, notre espérance commence à faiblir. On peut revenir non simplement à ce que Dieu nous a promis, il a établi par deux choses immuables, et la promesse, et un serment, comme s'il en avait besoin. Il a fait quand même. Pas pour lui, mais pour nous. Et donc, c'est ça ce que nous avons vu. Et je continue maintenant. Et j'aimerais bien le passage que je ne peux pas continuer sans que nous voyons par rapport à la foi d'Abraham, c'est Romains chapitre 4. Vous pouvez ou lire sur l'écran avec moi, ou vous pouvez regarder, parce qu'il y a plusieurs versets que je saute, manque d'espace, mais je veux juste souligner les grands points. Et un passage assez long, mais ici nous voyons exactement l'interprétation de ce qui se passait 2000 ans en avance, où l'apôtre Paul nous dit, voilà pourquoi les héritiers, attention, on vient de voir les héritiers le sont par la foi pour ceux qui soient par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, biologiquement, si vous voulez, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Ça, c'est 2000 ans plus tard, après la mort et résurrection de Jésus-Christ. L'interprétation de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament et surtout dans des épîtres, comme, continue l'apôtre Paul, comme le dit l'Écriture, j'ai établi, il cite maintenant l'Ancien Testament, Genèse, je t'ai établi pour être un père d'une multitude de peuples, et je lis le semeur ici parce que c'est très clair, placé en présence de Dieu, virgule, Abraham mit sa confiance en qui? En celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ça, c'est la personne en qui nous sommes demandés de croire. Est-ce que Dieu qui sauve est fiable? Abraham, verset 18, « Espérant contre toute espérance, il crut. » Pas simplement « il a cru », mais « il crut, et il crut, et il crut. » Il est allé au lit la nuit, il croyait, il se levait le matin, il croyait, il traversait à travers le monde avec des épreuves, il croyait, il dormait, il croyait, il se levait, il croyait. Il ne savait pas de quoi. Il croyait. En sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Continue, verset 19. Sans faiblir dans la foi, Abraham ne considérait point ce que son corps était déjà usé. On a lu ça, n'est-ce pas, en Genèse, la semaine dernière. Il ne considérait pas ça. Pourquoi pas? Parce que Dieu avait parlé. Son corps étant déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, verset 20, au contraire, et c'est ici aussi le semeur, ce verset, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, Abraham trouva sa force dans la foi. Alors, je dois insister ici, la foi n'est pas une activité humaine que si vous voulez quelque chose très 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 fort, croyez, réfléchissez, méditez, faire quelques séances de yoga, pensez très très fort, et éventuellement ça va arriver. Positivisme. Je ne suis pas forcément contre le positivisme, mais ce n'est pas ça, la foi. La foi est connectée à une vérité qui vient de Dieu. Et gardez cette connexion. De quoi? Et donc, oui, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Notez, n'oubliez pas, que l'acceptation de la promesse est entièrement basée sur la fiabilité de celui qui promet. Et j'ai noté la semaine dernière, nous vivons comme ça tous les jours de notre vie. Il y a certaines choses qu'on ne comprend pas, mais parce que tel ou tel prof ou telle personne l'a dit, on l'accepte. On va essayer de mieux comprendre, mais pour l'instant, on l'accepte. Parce qu'il a dit. Et c'est pour cela qui lui fut imputé la justice. Verset 23. Mais ce qui n'est pas pour lui seul, ceci n'est pas pour lui seul. Il est écrit que cela fut imputé à justice. Il n'y a pas que Abraham à qui il est écrit cet acte a été imputé à justice parce que c'était un acte plein et sûr et pur de foi. Il n'y a pas qu'Abraham, verset 24. C'est encore pour nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, étant donc justifié, Ah, parfois, attention. Nous avons la paix, réconciliation avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. On est donné accès à la chambre secrète. On est donné le code d'entrée. On voit, il y a des personnes, quand on vive notre vie, ils peuvent aller parce qu'ils connaissent le code ou ils ont une carte de passe. Nous avons une carte de passe. Il s'appelle la foi en ce qui dit celui qui ne peut jamais tromper. Nous avons une connexion avec cette carte de passe qui ne se trompe jamais. Accès dans lequel nous demeurons fermes, calmes, sûrs, et nous nous glorifions, nous magnifions cette espérance de la gloire de Dieu. Et puis notre texte. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme, sûre, solide, fermement fixée. C'est le taube, fermement fixé. Ça, c'est l'idée de solide et sûr. Il est fixe, mais il est fermement fixé. Il est solide, mais il est sûr. Un ancre. Il veut qu'on visualise. C'est pour cela que je vous ai aidé dans votre visualisation. Parce qu'il change l'illustration. Rappelez-vous, j'ai parlé hier, la semaine dernière, de deux illustrations qui sont données. Le premier était un personnage dont on attendrait que ça soit Abraham. Tous les chrétiens ne vivent pas longtemps chrétiens avant de comprendre l'histoire d'Abraham, qu'il est le grand modèle pour chacun de nous. Il restait, malgré les hauts et les bas, connecté à une espérance future basée sur un événement passé où Dieu lui avait parlé et déclaré une chose absolument sûre. Et la quatrième fois, il a ajouté un serment dessus pour que 4000 ans plus tard pour nous, on regarde en arrière et on voit ce serment que Dieu lui-même a fait, le seul serment qu'il avait jamais fait. Et il n'avait pas besoin de le faire. Mais il a fait pour nous au moment où notre espérance commence à s'affaiblir, comme est très souvent le cas. Mais ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours troublé à travers ma vie chrétienne, ou souvent, et je crois que vous aussi, un ancre existe, j'aurais dû peut-être mettre une photo d'un ancre qui est sorti d'un bateau pour que quand il y a des orages et le vent qui pousse, qu'il laisse tomber jusqu'en bas et ça se fixe contre les grands rochers du bas et une fois fixé, il va pas bouger. Et puis, mais ce qui est troublant parfois, je n'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est avec la connexion ici. Parce que ça dit un ancre de l'âme. L'ancre s'est posée quelque part. L'autre bout, c'est dans mon âme. Ce qui me fait peur, c'est que ça ne se pas détaché là-bas, mais ici, ça risque de détacher. La question qui m'arrive, qui peut vous arriver aussi, c'est une illustration comme ça. Quelqu'un dit, ne vous inquiétez pas, sur ce bateau, regarde ce magnifique, immense ancre, on va le mettre au-dessus, si jamais il y a un orage, ça va descendre jusqu'en bas, et ne vous inquiétez pas. Et puis, il le met. et vous le voyez descendre, puis vous suivez la corde jusqu'ici, puis la corde est juste en train de rester sur le bateau, sans être attaché à rien, et vous dit, mais ça ne me rassure pas trop. Ah, ne vous inquiétez pas, si jamais il arrive quelque chose, tenez très fort la corde, et puis ça sera bien. Est-ce que vous êtes rassuré par ça?
Pas moi.
Comment ça se fait que nous pouvons avoir une assurance que la corde qui est bien attachée là-bas est aussi bien attachée dans mon âme pour que je puisse aller jusqu'au bout dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel orage, dans n'importe quelle tempête de la vie? Hier, quand je rentrais de chez Marcel, j'ai vu ce couple. Annie et moi, on rigole parce que ce couple très vieil, mignon. Et après, on dit, mais peut-être ils ont plus jeunes que nous. Mais j'ai vu un couple que j'étais sûr c'était plus âgé que nous. Et ils marchaient comme ça. Et puis, ils faisaient juste leur promenade. Et j'ai interprété à une certaine sérénité, un certain calme. J'imaginais qu'ils ont été mariés depuis au moins une quarantaine d'années ou peut-être bien plus, je ne sais pas. Imaginez tous les orages qu'ils ont dû passer ensemble, toutes les surprises, toutes les larmes qu'ils ont pleurées ensemble, tous les conflits qu'ils ont dû avoir, et pourtant ils restent jusqu'à présent. J'imagine, je ne connaissais pas du tout, je l'ai vu hier, je ne le verrai peut-être jamais plus. J'imagine, je sais que ce sont ça. On avait parlé récemment sur le mariage avec plusieurs personnes pour noter la puissance d'une promesse. Pas la puissance des affections l'un pour l'autre, mais la puissance d'une promesse pour garder une alliance, la Bible l'appelle, entre un couple. Une alliance qui protège un couple jusqu'au bout. Fait devant des témoins, fait devant Dieu. Et puis, mais mon âme, est-ce qu'elle est connectée avec ceci? Et s'il est connecté, est-ce que qui c'est qui rassure que ça va rester connecté? Je vais vous donner juste plusieurs versets, quelques-uns que nous avons déjà vus avec quelques petits commentaires. Le verset 9 dans ce chapitre que nous avons déjà vu où l'apôtre disait « Je vous lance cet avertissement parce que je tremble pour certains de vous » ou « Je vous lance purement parce que ça vaut le coup ». Faut jamais prendre notre situation à la légère. Nous sommes dans un combat et nous sommes dans une tempête. Et nous avons un adversaire que si jamais il trouve une occasion, il fera couper la connexion si c'était possible. Et je suis de l'avis, basé sur la parole de Dieu, qu'il est incapable de couper la connexion qui est née en Dieu avant la fondation du monde. Et l'apôtre a raison de ne pas se désespérer quand il lance cet avertissement qu'il est impossible de se repentir. Une personne ayant été illuminée, ayant fait partie de l'Esprit, ayant fait partie de la bonne parole de Dieu, ayant entré dans les espérances même de l'avenir, mais s'il rejette finalement Dieu, impossible qu'il soit renouvelé à l'importance. Donc, allez en avance, parce que celui qu'il lâche, il risque de démontrer qu'il n'avait jamais reçu la foi qui sauve. Combien de personnes qui sont là tout le temps et disent, bon, oui, j'aimerais bien être chrétien, mais attention, quel est le prix? Je peux aller jusqu'ici, mais attention, si vous me demandez ça, ah, aïe, c'est fini, coupé. L'évidence qu'il n'a pas un ancre de son âme indétachable. Donc il y a des signes. Et si vous ressentez cela, et je suis sûr de temps en temps vous ressentez cela, c'est le moment plus que jamais de ne pas écouter à une telle impression à l'intérieur. L'apôtre, il a de l'espoir. Parce que il a dit, j'attends de vous des choses meilleures et favorables. Je suis persuadé. Pas que nous avons parlé comme ça avec sévérité, bien aimé. Nous attendons pour ce qui concerne les choses meilleures et favorables au salut. Après cet avertissement sévère, il est pourtant confiant qu'il observe des évidences des meilleures choses favorables au salut, c'est-à-dire, verset 11, « Conservez une espérance qui persévère jusqu'à la fin. » Voyant ce que je vois, appliquez ce zèle, qui pour moi est un signe que vous êtes sauvés, vous avez cru. Appliquez donc ce zèle pour aller en avance et de ne pas être paresseux dans votre foi, pour conserver une espérance qui persévère jusqu'à la fin. Et qui donc, par la foi et la persévérance, hérite les promesses. Avez-vous jamais constaté comment ça se fait que la foi et la persévérance se mettent ensemble? Dieu promet, vous persévérez, la récompense, dans 10 minutes, dans 10 ans, dans 50 ans, Dieu promet quelque chose qui reste pour les héritiers au ciel, qui est fixe. Et je dois quand même dire dans notre texte, je viens de parler d'un ancre qui descend dans la mer, au profond de la mer, mais dans notre texte, il est dit, verset 19, « Cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme. » Il y a 3 choses. Un ancre sûr, qui est aussi solide et qui pénètre au-delà du voile. Il va bientôt en hébreu parler, viser ce voile. Mais vous qui connaissez un tout petit peu la Bible savez que le tabernacle et puis finalement le temple, le lieu saint où est entré tous les jours les Lévites, les sacrificateurs, il y avait donc le lieu saint, il y avait un voile derrière lequel était appelé le lieu très saint, qui était pénétré une fois par an par le grand sacrificateur pour faire l'expiation du péché de tout le monde et qui représentait la véritable présence de Dieu que personne ne verrait sans mourir. Notre ancre, dit l'apôtre ici, est allé jusqu'à dans le cours du tabernacle, jusqu'à dans le lieu saint, jusqu'à dans le lieu très saint, tout ça qui n'est que illustration de Dieu, le Fils, qui est descendu, qui a payé avec son sang le prix de l'alliance pour que nous puissions avoir une assurance et une espérance qui ne bouge pas. Et il est fixe dans le ciel. Il veut que nous visualisions cela. Nous pensons des choses meilleures. Deuxième verset que je voudrais vous montrer, on a déjà vu cela aussi. Chapitre 3, verset 4, 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et nous avons vu cela il y a assez longtemps, il y a plusieurs mois. Mais attention, le temps de verbe, n'oubliez pas. Nous sommes devenus participants, pas nous deviendrons participants, mais nous sommes devenus participants en Christ. Ça ne veut pas dire Dieu veut que vous participiez avec Christ éternellement, mais malheureusement, ça dépend un grand effort. Dieu va attendre, et si vous arrivez jusqu'au bout, il va donc vous faire participant. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Nous sommes devenus participants. Si vous êtes un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous êtes devenus participants. Et la Bible va vous dire, depuis longtemps en arrière, depuis l'éternité passée, mais vous êtes sauvés maintenant. Et maintenant, vous avez reçu l'encre de votre âme et la corde, ce n'est pas un échappe de toute responsabilité, cette merveilleuse sécurité éternelle du croyant qui garantit que si quelqu'un a la foi qui sauve, a reçu aussi la foi qui va persévérer jusqu'à la fin. Il n'y a aucune espérance plus efficace que quand vous avez les cordes et vous avez l'impression que ça va partir et que vous ne pouvez plus. Mais non, mon assurance est fixée là-bas. Dieu m'a dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu est fidèle, qui ne permettrait pas que je sois tenté. Tiens, oh Dieu, tu cries vers le Seigneur et tout le temps, sans faille. Vous ne relâchez pas. Nous sommes devenus, et la cause, notre persévérance et les faits, et pas la cause de notre espérance. Et une troisième passage, chapitre 3, verset 6. Mais Christ, et le Fils, le verset que nous avons vu, sur la maison, et sa maison, c'est nous. Encore, le temps de verbe est très important ici. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et espérance dont nous nous glorifions, ou bien nous reconnaissons et nous soumettons à cette excellence incroyable. Comparable, la chose la plus glorieuse, c'est la personne qui nous a lancé la corde de cette ancre et par la foi nous avons saisi. Et nous sommes sauvés. Et si nous n'arrivons pas à persévérer jusqu'à la fin, ça c'est l'évidence que nous n'avons pas reçu ça de Dieu. Attention de dire, de penser comme ceci. Oui, je veux aller avec le Seigneur, mais c'est trop dur. Et peut-être je ne suis pas parmi les élus quand même. Peut-être je n'ai pas reçu la foi depuis la fondation du monde. Et donc je vais juste faire ça et j'arriverai à la fin de ma vie et tout pour rien. Je connais des personnes qui pensent comme ça. J'ai une voisine avec qui j'ai parlé à plusieurs reprises, qui s'était donné un ordre. Elle n'était pas dans un monastère pour les femmes, mais elle avait fait des ordres. Elle a enlevé certaines plaisanteries de sa chose plaisante, de sa vie, comme le chocolat. Elle n'avait jamais mangé du chocolat. Elle a 80 ans maintenant. Et puis, elle était une femme qui est un mère parce que après tout ce qu'elle a donné, si seulement je pourrais revenir en arrière et vivre une vie de débauche, je me suis gardé pur. Je n'ai jamais touché un homme. Je ne me suis jamais marié. J'aurais pu. J'ai fait tout pour Dieu. Il n'a rien fait pour moi. Elle a relâché. Oh, j'espère que Dieu lui permettrait. De quoi? Il y a plein de gens comme ça. La foi qui sauve ne peut jamais se mettre en amertume contre le Dieu qui le tient et qui le permet de traverser des épreuves impossibles. Et parfois, dont nous sommes nous-mêmes la cause. Dieu est de la joie de prendre notre bêtise et de reformer la bêtise, pas d'éliminer ni ça, ni ses conséquences, mais de reformer cela pour que ça devienne un joyau, un diamant magnifique, refait par la gloire de Dieu, attaché à lui pour nous amener jusqu'au ciel. Ah, il n'y a personne dans cette salle qui n'a pas des marques à travers cette merveilleuse peinture, plusieurs marques que Dieu va terminer pour retoucher, reformer après notre confession et repentance et faire entrer ces choses dans son plan qui fait augmenter sur notre espérance. Dieu va aller avec moi jusqu'au bout parce qu'il m'a sauvé. Oh, combien de choses à dire. Un dernier passage par rapport à ça. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts et les grands, entre les morts, virgule, le grand pasteur des brebis. Il est très clair qui c'est ce pasteur. Le berger, le mot pasteur veut dire berger, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Qui vous rend capable. Vous n'avez pas la capacité, non, mais vous avez les capacités qui viennent du Seigneur divine. Pas pour que vous délâchez, et ça dépend à Dieu, non, mais pour que vous ne délâchez jamais. Il n'y a qu'une seule personne qui peut ne pas se délâcher, et ça c'est celui qui a reçu la foi de Dieu et qui refuge malgré tout ce qui se passe. Et si vous êtes tenté de dire, Dieu ne m'a pas choisi, je vais relâcher, je ne peux plus, non, criez, oh Dieu, sauve-moi, il va vous sauver. C'est merveilleux. Toute bonne œuvre, rendue capable pour l'accomplissement de sa volonté, efface en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire des siècles et des siècles. Amen. Jésus prit la coupe. Rappelez-vous, il prit le même coupe. Après souper, il donnait à ses disciples, il disait cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance en mon sang. J'aurais dû faire tout un sermon sur cette quatrième point, parce que la nouvelle alliance est différente que l'ancienne. La nouvelle alliance, et je ne montrerai que quelques versets rapidement, très loin en Jérémie, 700-600 ans avant Jésus-Christ, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Oh, désolé, j'aurais dû avoir un autre, je vais sauter ça. Deutéronome chapitre 30, verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. C'est Moïse qui parle. 1500 ans avant Jésus-Christ, l'Éternel ton Dieu, parlant de l'avenir, parlant de la promesse qu'Abraham a reçue avec serment, pour ceux qui vont vivre en 2016, Il va circoncire votre cœur, le cœur de votre postérité. Et tu vas aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Qui c'est qui a dit ça? Heureuse, celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Quelqu'un sait qui c'est qui parle à qui? Même si je vous donne la référence. C'est Élisabeth qui parle à Marie. Ça m'a vraiment étonné parce que ce matin, Annie et moi, nous avons lu Luc chapitre 1 dans notre culte familial. Et j'ai dit, c'est incroyable. Élisabeth dit, Marie, tu es heureuse parce que tu as cru. Heureuse celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et maintenant c'est Marie qui va parler. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré Abraham, notre père. J'ai lu ça pour la première fois ce matin, 9h, avec ma femme. C'est merveilleux, la promesse que Dieu avait faite par serment Abraham et que maintenant est en train de se réaliser dans l'incarnation au sein. Il n'est qu'une petite chose, une petite embryo imperceptible sauf par un microscope qui n'existait pas à l'époque. Et elle dit, ah, il est arrivé la promesse que Dieu avait donnée. Et je termine avec le verset qui était au écran quand vous êtes entré. L'espérance ne trompe point, l'apostrophe, cette espérance. Tout le monde espère en quelque chose. Ils espèrent dans l'aveuglement, ils espèrent en soi-même, ils espèrent dans la société, ils espèrent dans la chance. Mais cette espérance est une espérance qui ne se trompe point. Parce qu'à l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, parce que lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, Robert. Et sa femme. Et appliquez-vous comme il faut. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pour faire ancrer dans le ciel à notre âme fixe. Jamais se déraciner.